Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h09, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Julien Beneteau, Simon Dutin, Sarah Pitkowski, Fred Weiss. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Merci de nous écouter très nombreux. Vous nous écoutez aussi énormément en podcast, donc n'hésitez pas à aller podcaster cette émission. À 9h30, on a parlé du 15 de France. Il y a plein d'autres débats à découvrir. Justement, dans quelques instants, une révolution qui se prépare dans le monde du tennis, à un projet assez fou. Pourrez voir le jour. Êtes-vous emballé ou consterné par ce projet? La punchline des GG à 10h30. Luis Enrique reconnaît que le PSG a eu de la chance au tirage. Aller en finale de la Ligue des Champions, est-ce que ce serait toujours un exploit? Et vous n'êtes pas d'accord, mais GG. Faut-il être une tête d'affiche pour devenir porte-drapeau des Jeux Olympiques de Paris? Nous ouvrirons le débat à 11h. Et puis, un très très beau cadeau à vous faire gagner dans cette émission. Le Paris Saint-Germain, j'en parlais il y a quelques instants, va affronter le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Au Parc des Princes, nous vous proposons de vivre l'expérience RMC, la visite des studios, la rencontre des équipes, le match évidemment au Parc des Princes, le débrief dans l'afterfoot, dès que vous entendez ce signal. La musique de la Ligue des Champions, évidemment. Vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. Attention, c'est pas tout de suite. C'est dès qu'il y a le signal dans cette émission, 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16. Les places pour Paris Saint-Germain-Barcelone se gagnent uniquement sur RMC.
RMC.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
Le bras de fer, GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame?
Alors, en marge du tournoi du Masters 1000 d'Indian Wells, une révolution dans le monde du tennis se prépare. L'avenir du circuit mondial se dessine avec deux projets puissants qui s'opposent. Le premier, autour des grands chelems qui veulent créer un circuit premium. Le second, autour des pétrodollars de l'Arabie Saoudite. Concentrons-nous sur le premier, impulsé par le patron de l'Open d'Australie, Craig Tiley. Un circuit fermé, très élitiste, avec donc, je le disais, les quatre grands chelems et 10 autres tournois. Êtes-vous emballé ou consterné par le projet? Dans le coin droit, la team emballée, Fred Weiss et Sarah Pitkowski. Dans le coin gauche, la team plutôt consternée, Simon Dutin, Julien Beneteau. Julien me fait des grands signes avec des nuances. J'ai bien compris, mon cher Julien. Avant de débattre, on va retrouver notre spécialiste tennis sur RMC, Eric Salio. Salut Eric.
Salut les grandes gueules.
Salut Eric. Salut.
Alors Eric, détaille-nous ce projet assez révolutionnaire, il faut bien le dire.
Ouais, ça fait quelques mois que ce projet d'un circuit fermé porté par les quatre grands chelems bruisse. L'impulsion est donnée par Greg Tallet, le patron de l'Open Australie. Il s'appuie habilement sur la puissance des majeurs. Son plan est simpliste ou simple, à l'image du circuit Live de golf ou de la Formule 1. Les 100 meilleurs se retrouveraient entre eux dans des Masters 1000 exclusivement en outdoor, donc en extérieur, précision importante, dont le nombre serait porté à 10. On devine l'idée, gagner plus en jouant moins. Pour ne pas paraître trop élitiste, il promet la naissance d'un circuit de deuxième division avec un système de montée et descente en fin d'année. Avec quel promoteur? C'est peut-être le point faible du dossier. Autre interrogation, le rôle joué par la Fédération française lié à ses trois partenaires de Grand Chelem, Gilles Moreton semble jouer les suiveurs, quitte à abandonner l'organisation de Bercy alors même qu'il vient d'officialiser son déménagement à la Défense Arena. Avouez que la stratégie est dure à suivre.
La stratégie est dure à suivre et on va essayer de décortiquer tout ça. Merci beaucoup Eric Salio pour ces précisions. Êtes-vous emballé ou consterné par ce projet? Nous vous avons posé cette question sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport et pour l'instant, franchement, il n'y a pas débat. 22% seulement emballés, 78% consternés. Alors les emballés, les ravis de la crèche, Fred Weiss, Sarah Pitkowski, on va commencer avec vous. Sarah, spécialiste tennis, pourquoi emballé?
Alors emballé, je...
Oh non, tu ne vas pas te défausser maintenant.
Non, mais quand je dis emballé, en fait, emballé parce que il y a une évolution qui est absolument nécessaire du circuit du tennis. Donc emballé parce que effectivement des projets sont naissants. Alors tu parles de celui de Greg Tiley, mais il y a aussi le projet de l'Arabie Saoudite. Donc emballé sur le fait qu'il y a une évolution nécessaire. Pourquoi une évolution nécessaire? Parce qu'il faut une sécurité, une plus grande sécurité financière pour la plupart des joueurs. Et ce, derrière la 200e place mondiale. Il y a une sécurité physique et morale qu'il faut assurer aux joueurs parce qu'il y a de plus en plus de tournois et qu'on traverse le monde à droite et à gauche. Et on le voit, c'est comme dans plein de sports et chez plein de sportifs, il y a une fragilité qui s'est installée. Et donc aujourd'hui, il faut le réfléchir différemment. Donc est-ce que c'est celui de Greg Tiley ou est-ce que c'est celui de l'Arabie Saoudite?
Mais il faut quelque
Moi,
chose.
Je pense qu'il y a une évolution qui est nécessaire, okay. Sauf que pour l'instant, on parle d'entité, mais on ne parle pas du tout des représentants des joueurs. Et ceux qui sont sur les courses, c'est les joueurs. Donc pour l'instant.
Pardon, mais ça ne marche pas, ça, dans le tennis.
Si, ça marche. Ah si, bon ça marche, si les joueurs n'ont pas envie.
Les joueurs, on voit au chapitre dans le tennis ?
Il faudrait.
Oui, c'est là qu'il faudrait.
Mais il faut les mettre autour de la table. Il faut les mettre autour de la table, parce que s'il y a un moment, on peut. Enfin, les joueurs et les joueuses ont aussi le pouvoir de ne pas rentrer sur le court.
Ok, plutôt consterné, même si évidemment
je suis dubitatif pour l'instant. Pour revenir sur ce qu'a dit Sarah, premier argument sur l'aspect financier totalement recevable. Au-delà de la 200e place, il faut sécuriser les joueurs, etc. Sur un sport majeur comme le tennis global, il y a pas assez. Les très grands gagnent beaucoup, mais derrière.
Mais pas assez. Mais Julien, la répartition, tu sais combien la répartition d'un grand chelem, la répartition du prize money entre le chiffre d'affaires que représente un tournoi du grand chelem et ce qui est reversé aux joueurs, c'est 12%.
Oui, on n'est pas sur un modèle économique comme la NBA où il y a.
Donc il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre.
En revanche, sur la santé des joueurs, etc., jouer moins et tout, là, les joueurs ne peuvent plus être audibles. Parce que les joueurs, ce qu'ils veulent, c'est de l'argent. Ils vont jouer la Lever Cup.
Exactement.
Ils vont jouer l'UTS. Voilà. Dès qu'il y a une exhibition en Arabie Saoudite, ils y vont.
Regarde Netflix récemment.
Ils ont fait Netflix. Soi-disant, la Coupe Davis, l'ancien format, c'était trop dur, c'était trop long, on peut pas jouer le calendrier ou la Fed Cup, etc. Dès qu'il y a une exhibition à droite, à gauche, avec beaucoup plus d'argent, ils y vont.
Donc il y a une répartition financière différente.
Différente, mais pour les joueurs, le calendrier pour les joueurs, c'est inaudible. Parce que les joueurs, dès qu'il y a de l'argent, ils vont jouer.
Donc, si vous voulez plus d'argent,
c'est toujours les mêmes qui vont jouer.
Les matchs par équipe à droite, à gauche, les trucs, à tous les niveaux pour gagner de l'argent.
Si...
au détriment d'un calendrier sportif qui est incohérent, du coup.
Oui.
Et donc, du coup, même les plus grands joueurs, même, ils sont venus à tuer certaines épreuves emblématiques comme la Coupe Davis et la Fed Cup, parce que il y a plus d'argent ailleurs, etc.
Donc on a une sécurité financière au-delà pour ceux qui sont derrière.
Mais finalement,
tout le monde.
Après, dubitatif, parce que par rapport au golf.
Si tu gagnes plus.
Alors, Eric a fait une erreur parce qu'il a cité le Leaf Golf, mais en fait, c'est tout sauf le modèle du Leaf Golf. Ce serait plutôt le modèle du PGA Tour sur le golf, avec un vrai circuit, avec une vraie descente, une vraie promotion, un vrai enjeu sportif, etc.
Oui, non, mais c'est l'Arabie Saoudite qui pourrait se rapprocher de la création d'un circuit
parallèle
comme le Leaf Golf. Par
rapport au golf et au circuit premier avec des systèmes de montée et descente, là, ce serait fermé. Donc, nous, on a déjà des tournois qui existent. Les 500, les 250. Craig Taylor, dans son projet, il voudrait que derrière, il y a une sorte de tour, contender tour, il appelle ça, pour les, du centième au troisième, qui est une montée.
Du centième au troisième joueur mondial.
Mais le problème, c'est que qui va organiser aujourd'hui des tournois comme ça?
Et
qui va les financer?
Ça va intéresser qui?
Exactement.
Alors, comment ils vont être financés, normalement?
Normalement.
Là, l'argent va émaner des droits télé. Puisque ce qu'ils veulent, c'est que sur circuit premium, soit vendu avec des droits télé vraiment énormes.
Mais donc ça, c'est unifié. Une supputation complète.
Non, mais voilà, unifié. Et du coup, après, ils vont redistribuer l'argent. Mais qui va, aujourd'hui, les tournois qui ont des licences 500, 250, et qui ont des très bons joueurs dans leur tableau, un membre du top 10, plusieurs membres du top 20,
là,
du
c'est
top 30,
terminé.
C'est terminé. Donc les tournois historiques ou les tournois qui sont déjà au calendrier de l'ATP vont pas avoir envie d'organiser des tournois.
Ils n'auront plus de garantie de leurs partenaires pour pouvoir continuer à organiser.
Et ils n'auront plus de joueurs dans les 100 premiers mondiaux. Donc c'est là où, pour moi, je suis dubitatif de voir comment ça peut se mettre en place, tout ça.
Je suis emballé parce que je me dis, tu risques d'avoir les 100 meilleurs joueurs. Alors oui, effectivement, il y a le 201 à 300 après. En plus, pour une possibilité de monter, d'aller dans ces 100 meilleurs joueurs. En théorie, on ne sait exactement comment ça fonctionne, mais c'est pas une ligue complètement fermée, entre guillemets. Mais me dire que les meilleurs joueurs du monde vont s'affronter dans des tournois où ils pourront choisir une douzaine de tournois. Ils auront 32 semaines de travail. Et donc, le reste, ils vont être reposés. C'est-à-dire que quand je verrai ces tenniswoman, parce que ça c'est quand même une grosse avancée, parce que les deux veulent se rapprocher, garçon-fille, je vais voir les meilleurs en forme. Donc je vois pas en quoi ça me pourrait me gêner pour moi qui suis pas dans ce milieu.
C'est
génial pour moi. Je vais voir les meilleurs joueurs.
dans leur meilleur état de forme.
C'est, mais c'est Fred, Simon. À part lorsqu'ils reviennent de blessure, il n'y a aucun des joueurs du top 100 mondial qui font un pied dans un ATP 250.
C'est encore du 100 mondial, oui.
Oui, ou alors pour faire plaisir à un copain qui organise.
Non, mais... non, top 100, si.
Ouais, franchement, je caricature, mais ils choisissent déjà où ils jouent, tous. Ils veulent,
les
ils choisissent, ils
meilleurs.
Cochent les Masters 1000, les grands chelems. Le problème, c'est qu'il y a une gouvernance multicéphale du tennis. Ça, les grands chelems font chacun ce qu'ils veulent, c'est-à-dire tu as quatre tournois qui décident de ce qu'ils veulent. Tu as l'ITF qui est inaudible, on sait même pas, qui est la gouvernance du tennis mondial. Il y a l'ATP, il y a la WTA. Bon, il faut que il y a un peu de rationalisation dans la gouvernance du tennis mondial. Il y a un besoin de moins jouer, je pense. Effectivement, le calendrier est un peu trop lourd pour les joueurs. Mais moi, ça me fait penser, je sais pas, basiquement au projet de Super League dans le football. Ça va contre l'universalité du tennis. On fait quoi des grands totems de l'histoire du tennis, les tournois de Rome, de Monte Carlo, qui risquent de passer à la trappe.
C'est hyper sécurisant pour un promoteur. C'est pas hyper sécurisant pour des droits télé de se dire, je vais avoir les meilleurs joueurs dans leur meilleur état de forme.
Mais Fred, moi, les meilleurs joueurs,
j'ai envie de regarder.
Je suis d'accord avec toi. Mais en fait, aujourd'hui, pour les meilleurs joueurs, tu l'as déjà ça. Parce que pour les meilleurs, le top 10, le top 15, ils choisissent leur calendrier. Ils font pas beaucoup de 250-500. Ils font les Master Smith, les Grands Chelems. Et quand ils se rencontrent, ils sont en forme, à part retour de blessure ou quoi que ce soit. Donc ça, pour moi, tu l'as déjà. Après, il y a Jean-François Cojol.
Ça crée l'événement. Ça crée un événement n'ayant que 12 tournois.
Il y a Jean-François Cojol qui a réagi. Et il y a un argument où je suis assez d'accord avec
alors,
lui.
Alors, je vais juste citer sa phrase et tu vas pouvoir compléter.
Je sais pas si c'est
J'espère, en tout cas. Ça veut dire qu'on est,
mon petit Jean-Christophe.
Très connecté. Ouais. Et tu m'en verras ravi. Directeur de l'Open 13 de Marseille, c'est un tournoi évidemment historique chez nous, mais pour les grands joueurs un petit peu moins, c'est un 250. Du premier au centième, c'est ce qu'il dit, ils vont jouer 14 tournois dans l'année. Ouais. Et le résultat, ils vont faire quoi? Un mec qui est 60e, il va perdre à chaque fois au premier tour ou au deuxième tour. Comment un jeune va-t-il pouvoir entrer dans ces tableaux? Il dit aussi, sportivement, c'est aberrant. Les joueurs, ce n'est pas comme la Formule 1. Ils ont besoin de jouer régulièrement.
Alors voilà, c'est là-dessus où je suis assez d'accord avec lui. C'est pour la catégorie de joueurs qui seront dans ce circuit premium, mais aux alentours de la 60e ou la 70e place, sur ces tournois qui vont durer 15 jours, qui sont longs, donc il y a une journée de repos à chaque fois, c'est pas mal pour la santé des joueurs, etc. Mais
eux, à la trappe.
Et oui, au deuxième tour, en général, ils vont être à la trappe. Et effectivement.
Sauf que c'est pas la proposition, hein. La proposition initiale, c'est pas exactement ça. Je pense qu'il a pas exactement lu ce qu'il en est. La proposition initiale, c'est qu'ils auront le droit de faire des tournois moins importants, hein.
Pour moi, les joueurs qui sont dans le circuit premium, ils ont pas le droit de jouer dans les
Ils auraient le droit de choisir des tournois moins importants dans lesquels ils pourraient participer. Et dans ce cas-là, je vois pas quel est le problème. Au contraire, ils sont dans un circuit premium, ils sont vus, ils ont une vraie visibilité par rapport à ça.
Si c'est ça, je suis d'accord avec toi, Fred.
Et effectivement, quand ils sont éliminés rapidement, ils peuvent bifurquer sur d'autres tournois.
C'est ce qui explique, c'est ce qui existe aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, les Masters 1000, beaucoup de Masters 1000 sont sur 15 jours. Celui d'Indian Wells, celui de Miami, celui de Rome, celui de Madrid, ceux de l'été aux États-Unis vont y arriver. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la deuxième semaine de ces tournois-là, il y a ce qu'on appelle des gros challengers. Mais c'est pas des 250, mais c'est soit des 125, voire même des 175, qui ont des tableaux pour des challengers exceptionnels. L'année dernière, au tournoi, au challenger de Primrose à Bordeaux, il y avait Wawrinka, il y avait Andy Murray, il y avait Richard Gasquet, il y avait plein de Français. Pour un challenger, c'est incroyable. Donc, ces deuxièmes semaines de Masters 1000, pour ceux qui sont éliminés, ils ont la possibilité de jouer dans des gros challengers, ou donc c'est déjà le cas. Donc, je sais.
Mais est-ce que c'est aux joueurs de tennis de faire la promotion de tous les petits tournois pour qu'ils arrivent à survivre?
Mais c'est pas une question de faire de promotion, c'est-à-dire de pouvoir faire un calendrier cohérent
sportivement et économiquement.
Encore une fois, au tennis, c'est un tableau, c'est-à-dire que tu peux perdre, et d'ailleurs, tu perds une fois par semaine.
Ouais.
C'est toujours le même principe. Donc si tu fais que des premiers tours, tu joues un match tous les 7 jours. Et effectivement, ça, c'est très handicapant. On n'arrête pas de pleurer parce que Kylian Mbappé, il fait que des entrées sur le banc. Ben, un joueur de tennis, c'est la même chose. Il est là pour jouer des matchs. Je sais pas, des entraînements.
Bon, mais là, t'as 12 ou apparemment entre 12 et 14 tournois qui seraient quasiment
mais
obligatoires.
Mais t'as toujours un mec qui perd au premier tour.
Mais évidemment, sauf que s'ils peuvent être versés sur des tournois plus petits,
je vois pas encore.
Et au contraire, ça leur laisse peut-être des opportunités.
Alors, je vais juste apporter un point. C'est-à-dire que le projet de Greg Taillet, il n'est basé que sur une certitude que il va y avoir des droits télé et qui va pouvoir coupler les droits télé. C'est comme la Ligue 1 qui dit j'ai Messi, j'ai Neymar, j'ai Mbappé, je vaux un milliard. Mais ça,
moi,
c'est
d'accord que c'est bankable sur le papier, c'est bankable. Après encore une fois, c'est la loi qui fait la demande. Mais sur le papier, c'est bankable quand même.
Aujourd'hui, il ne se base que sur une garantie qu'il va y avoir une agrégation des droits. Et s'il y a un moment, il y a une chaîne ou un groupe qui fait faillite, et ben c'est la même chose. Tu déséquilibres tout ton circuit et tout ton modèle économique.
Est-ce que c'est pas valable dans tous les sports?
Je sais pas, mais nous on a un ATP on a l'ATP, la WTA qui représente toute une catégorie de circuits qui aujourd'hui ont une autre offre, c'est-à-dire que lui, à l'ATP, à WTA, il y a 2 milliards. C'est pas un projet, on dit c'est 2 milliards.
Oui, mais est-ce que
lui,
tu sais comment ça va évoluer
l'ATP et WTA? Après, c'est de la négo.
Dans le doute, on sait pas en fait.
Si c'est utilisé correctement, tu vas pouvoir augmenter les prize money, sécuriser financièrement les joueurs et donc peut-être créer une coordination d'un circuit qui est cohérent. Le problème, c'est que les grands chelems ne donnent jamais leur chiffre d'affaires. Ils ne veulent jamais donner leur compte.
Juste pour terminer ce débat.
Ils sont au-dessus de la mêlée.
En préparant évidemment ce débat, on s'occupe un peu du tennis, on voit l'organisation, on essaie de comprendre. Comme disait Simon, il y a tellement d'entités que parfois on s'y perd un peu. Et on en revient toujours au même constat, on a la sensation, et pourtant c'est quand même là où il y a l'argent, il y a un problème avec les quatre grands chelems. Vous qui connaissez le tennis, c'est quoi le problème avec les quatre grands chelems? Alors qu'ils font vivre quand même le tennis toute l'année.
C'est paradoxal, surtout pour, par exemple...
Pour que les auditeurs comprennent bien, pourquoi les grands chelems, ça devient un problème?
Moi, je vois pas je les vois pas comme un problème. Parce qu'aujourd'hui, les prize money... Alors, ça, en termes de pourcentage sur le revenu, ça reste infime. Sauf qu'ils ont quand même énormément augmenté les prize money ces derniers temps, surtout sur les premiers tours. Donc, ou en qualification, donc pour une catégorie de joueurs qui en ont vraiment besoin. Et par exemple, si on compare l'ATP, ils ont des prize money conséquents pour certains joueurs, mais par exemple pour les joueuses du circuit WTA, celles qui sont 60e, 70e, qui sont dans le tableau final de chaque grand chelem, c'est les grands chelems qui font 60, 70% de leur prize money annuel.
Qu'est-ce qu'ils font des 78 autres pourcents?
J'ai bien une idée.
Non, mais qu'il génère, c'est-à-dire qu'en fait, je le parle et a priori, on devrait être très content parce que nous, l'argent est reversé au tennis français. Donc, j'ai envie de dire,
c'est pareil.
Ça fait vivre quatre fédérations. Donc, ok, très bien. Mais donc, ça déséquilibre forcément un tennis mondial ou quand tu viens d'un pays qui, lui, n'a pas un grand chelem et donc n'a pas de financement. C'est là où il y a un déséquilibre.
Donc le problème est financier avec les quatre grands chelems.
Bah, il est financier, il y a un manque de transparence.
Okay. Si, non, l'argent, on le sait où il va. Il est redistribué dans la fédération qui organise les grands chelems. Okay. Ça c'est sûr.
On est vachement bon, nous, alors.
Bah oui. Bravo. Allez, Roland Garros, évidemment. Ce sera le grand mai et on sera là sur RMC. Sachez que les copains ont emballé. Vous avez gagné un petit pourcent.
C'est un métier.
Fred Veil, Sarah Pitkowski, on termine à 23%, bravo. 77%. Consterné, toutes les dernières informations sur ces projets, c'est à retrouver sur rmcsport.fr, alors que Julien Beneteau et Sarah Pitkowski continuent de débattre. C'est ça que l'on aime dans les grandes gueules du sport. On revient dans quelques instants. La punchline, signé Luis Enrique, chanceux au tirage. Alors la finale, c'est un exploit ou pas? Merci beaucoup Eric Salio d'avoir été avec nous. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h31 de retour sur RMC avec Simon Dutin, Julien Beneteau, Sarah Pitkowski, Fred Weiss. Restez bien avec nous. Dans 10 minutes, le zapping des GG avec pas mal d'informations à vous donner, notamment l'OM qui veut jouer sur tous les tableaux. Julien Alaphilippe de retour au premier plan. Bref, vous me direz si ça vous intéresse ou non. Il y a matière à débat, mais si vous me dites je m'en fous, évidemment, on ne développera pas l'information. À 11h45, les GG contrats. Vous le savez, mes grandes gueules, vous pouvez prendre les commandes de cette émission. Vous proposez un débat, c'est soumis au vote. Et forcément, nous sommes dans une démocratie. Oui, c'est beau la démocratie. Celui qui a le plus de voix, eh bien, remportera.
Comme en Russie, où il y a les élections aujourd'hui.
Oui. Voilà. Alors, merci pour cet édito politique. Je ne m'y attendais pas. On annonce entre 80 et 90% des voix pour Vladimir Poutine. Donc, je vais m'abstenir de commenter ça parce que je tiens à moi. Ouais. Bref, allons-y. Les copains. Sarah Pitkowski, tu nous proposes quoi?
Moi, je voudrais revenir sur cette polémique sur le choix du chanteur ou de la chanteuse qui devrait probablement ouvrir la cérémonie d'ouverture de nos Jeux de Paris 2024. Et quand on voit qu'aujourd'hui, une étincelle s'embrasse plus vite qu'un feu de forêt, je me dis, mais comment un gouvernement comme le nôtre peut imposer un nom sans même solliciter peut-être un vote des Français. Parce que forcément, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Et donc, je ne vais pas donner mon avis sur la personne qui est pressentie aujourd'hui, mais quand on voit ce que ça engendre comme discussion, eh bien je mettrai peut-être
chrono,
une petite liste.
Sarah, le chrono,
oh, mais c'est bon. Il n'y a pas Christophe, je peux remplacer Christophe ou pas?
On peut me rappeler les règles?
C'est 20 secondes.
Non, les règles, on fait comme on veut.
Ne perdons pas temps, tu voudrais revenir évidemment sur la polémique à Aya Nakamura, j'ai bien compris. Simon Dutin.
Le Real Madrid qui a annoncé qu'il ne libérerait aucun de ses joueurs, et notamment joueurs français, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il y en a plusieurs, Tchouaméni, Kamavinga, Mbappé, même si on ne sait pas si Thierry Henry compte sur eux. Est-ce qu'on trouve ça compréhensible ou est-ce qu'on trouve ça scandaleux? D'autant plus qu'un texte de loi espagnol oblige le Real Madrid à libérer les joueurs espagnols pour la sélection espagnole.
Mbappé est au Real en fait.
Quasiment.
Ah, d'accord.
Vous avez mais on n'annonce pas encore.
Vous avez des infos.
Tu as raison. Cela pourrait concerner également qu'il vienne.
Merci. Des précautions rates. Julien, tu fais le malin. Vas-y, c'est quoi ton débat?
Moi, c'est sur le foot et le foot amateur, sur le rôle des parents et des éducateurs et l'irrespect qu'il peut y avoir envers les arbitres. Et donc, plus largement, comment le comportement du foot professionnel et de l'arbitrage et des joueurs, des entraîneurs vis-à-vis des arbitres se répercutent sur les jeunes et sur le foot amateur. J'ai eu une expérience hier personnelle et plus globalement, je trouve qu'il y a vraiment maintenant, il faut vraiment que les mentalités changent.
Et si vous votez pour Julien, il vous racontera son expérience personnelle avec
facile,
ses enfants
ça.
Et tout ça. C'est dit, je tease un petit peu. Ouais. Fred Weiss.
Alors moi, je suis très bien parti apparemment. Donc oui. Je vais essayer de bien vendre le produit. Alors on a Victor Wembanyama qui va revenir jouer. Paris, mais cette fois, la poule aux œufs d'or de la NBA va jouer deux matchs qui vont se dérouler à Bercy et deux matchs qui vont, j'espère, permettre aux vrais fans de venir. Parce que la question, c'est, pour l'instant, on n'avait qu'un seul match parce que justement, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Là, il y a de la place. Est-ce que la NBA va enfin libérer des places pour les vrais fans?
Ok, vous pouvez aller voter sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport, c'est à 11h45. Est-ce l'année ou jamais? Vendredi, le PSG a été gâté par le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, évitant dans sa partie de tableau Manchester City, le Real Madrid et le Bayern Munich. Les Parisiens affronteront en quart de finale le FC Barcelone et en cas de qualification, ils retrouveraient soit l'Atlético de Madrid en demi-finale, soit Dortmund. À l'heure de commenter le tirage hier en conférence de presse, Luis Enrique s'est pris à rêver. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Je pense qu'il y a deux parties dans ce tirage au sort. La partie dans laquelle nous sommes, Barça, Atlético Madrid, Dortmund. Et je crois que nous quatre voyons tous les chances d'atteindre la finale, ce qui est très excitant. Ensuite, il y a la partie où se trouvent les favoris, le Real Madrid, Manchester City, champion en titre, le Bayern Munich et Arsenal, l'un des meilleurs de la Première Ligue, ce qui rend cette partie du tableau plus difficile à prédire. Que va-t-il se passer? Difficile à dire également, car dans notre partie du tableau, nous quatre avons certainement nos chances.
Les quatre ont une chance d'aller en finale dans sa partie de tableau. On rappelle que le PSG, depuis le début de la saison, dit mais non, nous, là, on construit, ça, c'est pas pour nous tout ça. Aller en finale, est-ce toujours un exploit? Oui ou non, Fred Weiss?
Non.
Simon Dutin?
Non.
Julien Beneteau?
Non.
Sarah Pitkowski?
Oui.
Bah oui, bah tu commences. Bah pourquoi oui, ça
vous l'avez vu souvent en finale de Ligue des Champions, le PSG, de mémoire, parce que je pense qu'on n'a pas les mêmes livres, les mêmes livres d'histoire. Je perdais le mot. Donc je comprends pas même que vous puissiez dire que ce serait pas un exploit quand on voit la saison du PSG, quand on voit ces matchs en Ligue des Champions qui, ils surdominent pas leurs adversaires. On a quand même pas mal d'interrogations. Donc je vois pas comment vous placez le fait de voir le PSG comme n'étant pas un exploit. Il y a encore encore deux matchs à gagner, deux matchs aller-retour. C'est un exploit de voir le PSG en finale de Ligue des Champions.
On peut pas dire chaque saison lorsque le PSG est éliminé que c'est une déception.
Ça fait 3 ans
que le PSG n'a pas fait le job et que le PSG a raté sa saison et dire que c'est un exploit le jour où ils vont en finale. Si tu regardes le tableau, si PSG avait tiré Dortmund, on aurait dit c'est un bon tir. ça. S'il avait tiré l'Atlético, on aurait dit ah c'est un peu emmerdant, mais ça peut passer. Et là on se dit que ça peut passer. Il y en a un de ces quatre là qui sera en finale.
Oui.
Bon ben sur un match, tu peux taper ou City ou le Real ou le Bayern ou Arsenal sur un match. Donc oui, t'es obligé de constater que à ces altitudes là,
vous êtes rassuré par le jeu du PSG depuis le début de la saison, vous ?
Non mais alors,
est-ce que c'est un jeu qui dit que la Ligue des Champions c'est quelque chose de
C'est par rapport à la situation, par rapport au tirage au sort. Le Barça, t'es rassuré par le jeu du Barça, par la défense centrale avec un jeune ?
Non.
Une équipe avec ce PSG-là et avec Mbappé en face, si en face il n'y a pas une grande défense centrale, le PSG gagne à chaque fois.
La dernière fois qu'Mbappé a joué au Camp Nou, il a bien triplé.
Ils sont plus forts. Donc le PSG va battre le Barça.
Ce sera mon jeu, il va encore mieux.
Et pourquoi je dis que ce ne serait pas un exploit ? Parce que l'Atlético, ça peut être très dur, mais dans la chance du tirage au sort, encore une fois, en demi, le retour est au Parc. Et ça, j'aurais dit une chose différente si le retour avait été à l'Atlético. Parce qu'aller jouer le retour à l'Atlético, ils l'ont montré contre l'Inter, avec Simeone et les 65 000, c'est compliqué. Là, je suis d'accord avec Enrique quand il dit, je pense, quand il regarde le tableau, tous, que ce soit Dortmund ou l'Atlético, ils disent,
On a une bonne chance d'aller en finale.
En quoi ça serait un exploit de battre le Barça dans l'état où il est actuellement? Il y a des blessés. Il y a Xavi qui va partir. Lui, il est parti dans sa tête déjà. Donc lui, il est parti. Il joue pas au Camp Nou. Donc déjà, c'est quoi l'exploit?
Ils vont retrouver leurs blessés, le Barça. Il est pas tout de suite. C'est quoi? C'est le 9 et le 10 avril.
D'accord, mais je suis.
Déjà,
il faut un peu de rythme. Mais je reviens sur Xavi. Xavi, il ne sera pas là. Donc concrètement, tu pouvais imaginer un tirage plus favorable. Oui, c'était Dortmund peut-être, mais le Barça c'était plutôt bien. Et je me répète, ne pas jouer au Camp Nou pour le Barça, c'est quand même déjà tu vins le signe indien que des remontadas éventuelles, etc. Et en plus eux ils ont pas leurs habitudes. Et ensuite, qu'est-ce que tu préfères, jouer Dortmund ou Bayern? Tu préfères jouer
Atlético?
Vous placez le fait que ce soit pas un exploit juste par le tableau, mais moi je suis
d'accord avec toi, Sarah.
Mais moi je le prends de manière globale. Il y a eu des PSG qui avait un bon tableau et pourtant ils n'ont pas pris leur opportunité.
L'Atlético depuis un mois, ça a perdu deux fois contre l'Athletic Bilbao. Bon, est-ce que le PSG pourrait battre peut se comparer à Bilbao? Bon, a priori oui.
Ils
ça a perdu contre Almeria, ça a fait match nul contre Almeria, ça a perdu contre
Galatasaray.
T'es obligé de prendre en compte l'état de forme des adversaires,
mais surtout ton tableau aussi. Est-ce que dans ce tableau, dans cette partie de tableau, il y a une équipe qui est au-dessus largement?
Ils ne comprennent pas ton avis. Si. Moi, je vais essayer de leur faire entendre. Oui. Je vais tenter, en tout cas, de leur poser la question différemment.
Ah.
Il y a une semaine, Nasser Al-Khelaifi était l'invité exceptionnel de Marion Bartoli. Voici ce qu'il disait sur cette année, sur la Ligue des Champions.
Ce que je demande, c'est que tout le monde travaille tous les jours, aux entraînements, à chaque match, tout donner. C'est tout. Il n'y a pas de grandes attentes. Nous voulons vraiment penser à l'avenir.
Il n'y a pas de grandes attentes. C'est ce que disait Nasser Al-Khelaifi. Vous pouvez me dire que c'est de la com, mais depuis... Attendez, laissez-moi finir au moins. Mais depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain le dit, nous ne sommes pas programmés pour gagner la Ligue des Champions. Si en début de saison, vous avez dit, le PSG en finale, là, c'est un exploit ou pas? Vous auriez tous répondu oui.
En début d'année, oui.
Quand même, ça reste un exploit d'aller en finale.
Mais l'évolution des saisons, et l'appétit vient en mangeant.
Tu refais l'histoire.
Au début, effectivement, tu peux dire, oui, je joue, j'ai envie de progresser, de gagner des matchs et d'avancer. Sauf que l'appétit vient en mangeant. Le fait d'avoir un tirage avec un coup de chance, pour pas dire autre chose, incroyable de tomber sur cette partie.
Ça se joue même avant le tirage. Se joue au penalty, au match de poule contre Newcastle, qui est pas pour qu'ils égalisent. S'ils perdent ce match, ils sortent pas des poules.
Exactement.
Donc ils ont déjà de la chance
tout,
là.
Tout le parcours du PSG,
ça ressemble au Chelsea de Tour.
Tu vas pas au bout d'une compétition juste parce que t'as de la chance.
Mais ça fait partie du jeu.
Mais ça restera les seuls parmi les huit pour lequel ce serait pas un exploit d'aller en finale, c'est juste Manchester City.
Il y a un effet de loupe chez nous parce qu'il y a le PSG et les autres, et dès que Paris gagne pas ou gagne pas aussi largement que ce qu'on pourrait espérer ou envisager, on se dit le PSG ça va pas. Mais j'y sais, tu refais un peu l'histoire. Tout de même, l'été dernier, on disait ah, on s'est débarrassé de ces pimpins Messi et Neymar. Enfin, qu'est-ce qu'on n'entendait pas? Mbappé va être libéré. Luis Enrique, il a fait le triplé en 2015 avec le Barça. Il connaît le chemin. Il sait, il va les emmener. Colomouani, c'était un des mecs attaques les plus demandées sur le marché des transferts en Europe. On s'est gargarisé, formidable. On francise un petit peu cette attaque. Ousmane Dembélé, justement trésor de guerre, piqué au Barça. On se dit ok, il manque peut-être un milieu de terrain, mais cette équipe, non, elle a de la gueule avec la patte Luis Enrique. Ça va le faire. Cette saison, on a un Manchester City qui est un peu moins dominateur, qui a fait 6 mois un petit peu plus compliqué, un Bayern qui est un petit peu moins dominateur, qui est prenable. Bon, si Paris a pas sa chance cette saison, quand est-ce qu'ils l'auront?
En fait, on n'est pas d'accord sur le mot.
Non, ce serait une magnifique performance.
Il va affronter quand même son équipe.
Mais
vous mettre un jingle pour que vous puissiez vous arrêter et que je reprenne la main. Merci beaucoup pour ce débat, on a bien compris vos positions. Vous venez d'entendre la petite musique de la Ligue des Champions, c'est le moment pour vous inscrire justement pour vivre l'expérience RMC au Parc des Princes et gagner vos places pour Paris Saint-Germain-Barcelone à partir de maintenant. 10h43, vous avez 5 minutes pour vous inscrire en envoyant PSG au 732-16, PSG au 732-16, ça peut vous aussi vous arriver. Bonne chance évidemment. Arnaud Souk nous attend en direct d'Autriche à Stalbach pour la première manche du slalom. Où en est-on, mon cher Arnaud? Clément Noël vient de passer. Bonjour.
Salut Jean-Christophe, salut à toutes et à tous. Sous le soleil, le grand soleil sur la station de Zalbar. On n'est pas très très loin de Kitzbühel pour vous donner la géographie des lieux. Timon Haugen, le Norvégien, qui pour l'instant réalise le meilleur temps de cette première manche, 15 centièmes devant l'Allemand Linus Strasser. Loïc Meillard complète le podium provisoire à une demi-seconde. Et Clément Noël, lui, s'est classé quatrième pour l'instant à 8 dixièmes de Timon Haugen. Donc voilà, c'est un petit peu loin, mais cet écart est possiblement n'est pas rédhibitoire en tout cas, parce que les conditions de piste vont fortement se dégrader vu la douceur qui règne sur Zalbar. On aura un autre Français dans quelques instants. C'est la première fois qu'il va s'élancer en première manche dans les 15 premiers dossards. C'est Steven Amier, le fils de Sébastien, évidemment, vice-champion olympique de slalom en 2002.
Merci beaucoup Arnaud Souk. À tout à l'heure, évidemment, on va suivre attentivement nos Français. 10h44, on se retrouve dans quelques instants. On s'en fout pas, avec notamment l'OM, du Julien Alaphilippe ou encore un petit peu de basket pour notre ami Fred Weiss. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h47, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission jusqu'à midi avec ce matin Sarah Pitkowski, Fred Weiss, Simon Dutin, Julien Beneteau. À partir de 11h, on ouvre le débat sur le porte-drapeau. Il y a eu une réglementation des... des critères, voilà, pour justement être porte-drapeau. Vous allez voir des nouveaux critères et ils sont nombreux et ça élimine pas mal de stars. Faut-il être une tête d'affiche pour devenir porte-drapeau? On se posera la question et vous n'êtes pas d'accord, mais GG. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Des informations à vous donner, l'actualité de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est l'OM qui veut jouer sur tous les tableaux. On s'en fout pas. Sarah Pitkowski.
Je m'en fous pas, mais je pense qu'il y en a un qui est beaucoup plus à même que répondre que moi, donc je m'en fous.
Parfait, ben voilà. Julien Beneteau, c'est ça?
Ouais, je m'en fous pas.
Ok. Supporter marseillais. Simon Dutin.
M'en fous pas.
Ok.
Quel enthousiasme.
Je m'en fous pas.
L'OM se rend donc à Rennes à 17h05 aujourd'hui. Une rencontre très importante dans la lutte pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Les Marseillais ne sont qu'à 4 points de la 4e place, mais beaucoup d'équipes peuvent prétendre à ce top 4. L'OM qui jouera également en fin de saison la Ligue Europa avec les quarts de finale. Ce sera face à Benfica. Et Jean-Louis Gasset, vous allez l'entendre, il veut jouer les deux.
On est dans un endroit où on ne peut pas différencier les compétitions. Je connais l'importance de la Coupe d'Europe ici, mais je sais que le championnat est aussi important pour l'année prochaine. Donc il faut arriver à juguler un effectif un petit peu amoindri avec un espoir de récupération après la trêve internationale de 2 ou 3 joueurs, ce qui est quand même assez positif. On ne peut pas choisir une compétition. Demain, on a recollé un peloton et demain on va essayer de faire un dernier effort. C'est ce que j'ai dit à mes joueurs. J'ai dit, il manque un petit coup de collier à donner. Je sais que vous êtes fatigués, mais on a mis tout en œuvre pour la récupération. On met tout en œuvre pour ce petit coup de rein encore à donner parce qu'on connaît l'importance de ce match.
Julien, il te plaît le discours?
Oui, avant cette trêve, effectivement, aujourd'hui c'est un match très important pour la suite de la saison de l'OM en Ligue 1. Ils jouent Rennes là-bas, ils ont 3 points d'avance sur Rennes. S'ils gagnent, ça les met à 6 points, on peut dire que Rennes restera derrière. Ils peuvent revenir un petit peu sur Lens et pas être décrochés par Nice qui a gagné à Lens hier. Donc ça, j'aime bien ce discours de Jean-Louis Gasset. Je m'en fous pas, pourquoi aussi sur tous les tableaux, parce qu'on a assez critiqué les clubs français qui veulent pas jouer la Coupe d'Europe et qu'une Coupe d'Europe ça ne se galvaude pas et que tu peux jouer un quart de finale contre Benfica.
Une demi face à Liverpool.
Et après, il y a une demi-finale contre Liverpool. C'est là où après, il faut pas s'emballer.
Ce serait un exploit.
Mais c'est pour l'instant, c'est impossible. Donc, il faut faire attention à ça parce que la priorité, vu le début de saison et la situation au championnat, elle est précaire. Et c'est quand même la priorité pour la pérennité et pour la suite de l'année prochaine. Mais j'aime bien le discours en disant voilà, on a mis les choses en œuvre pour la récupération, de préparer les joueurs en disant voilà, il y a un dernier coup de collier, il est important à donner aujourd'hui. Et après, on voit la suite de la saison et la fin de saison.
Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Julien Alaphilippe de retour au premier plan à San Remo. Et on l'attendait pas, celle-là, forcément. Fred Weiss.
On s'en fout.
Simon Dutin.
Ça m'aurait étonné, on s'en fout pas.
Julien Beletto.
Ouais, je laisse Simon.
Sarah Pitkowski.
Pareil, ravi pour lui, mais pas grand chose à commenter pour ma part.
Ça va, toi, Sarah, en ce moment?
J'ai prévenu que je flirtais avec le air zapping. Hein.
Oui. Attends, il y aura une troisième information, je pense qu'elle va t'intéresser.
Oh, j'en doute pas.
Pour le premier monument de la saison, Jasper Philipsen s'est imposé sur Milan-San Remo. À la surprise générale, il faut bien dire, devançant notamment l'ultra favori Tadej Pogacar. Neuvième à l'arrivée à San Remo, Julien Alaphilippe aurait pu prétendre à une meilleure place sans une crevaison survenue à 1 km de l'arrivée. Écoutez ses sensations. Il était tout de même heureux, Julien Alaphilippe.
On a fait un beau final, je pense. J'avais des bonnes jambes. Ça m'a fait plaisir d'être à l'avant dans le final. Et ouais, malheureusement, j'ai crevé, je pense, à 1 km d'arrivée. C'est comme ça. Le moral, il est bien. Hein. Ça va tourner à un moment donné.
Eh ben, tant mieux. Simon Dutin.
Ça fait plaisir de parler de Julien Alaphilippe dans
positivement.
Voilà, on a suffisamment évoqué les déclarations de Lefebvre, son état de forme à lui. On s'est interrogé, est-ce qu'il pouvait revenir, est-ce que il était fini pour voilà top 10 là dans un monument des classiques. Tu l'as rappelé, c'est pas parce qu'il a été moins bon que les autres, c'est un peu de poisse, la crevaison dans le final, et il a manqué la petite attaque, mais bon, j'ai pas vu toute la course, mais je crois qu'il a réussi à suivre. Je me souviens qu'il réussit à suivre Pitcock dans le final lors d'une attaque. Je crois qu'il peut pas contrer justement précisément à cause de cette crevaison. Non, et puis on l'entend après, tu vois, il y a pas de revanche.
C'est rare,
comme ça qu'on le veut. Je pense que c'est un mec qui fonctionne aussi à ça, quand ça va bien dans la tête, ça va bien sur le vélo. Donc ça donne après Tirreno Adriatico, c'était pas dingo l'ambiance quand même côté français. Et là, ça redonne un petit peu d'espoir avant les classiques flandriennes. Donc pourquoi pas.
Ok, hein, un petit Julien. Peu d'espoir. Merci Simon. Troisième information dans le zapping des GG à vous donner, les Bleus du basket qui peuvent prendre du lourd d'entrée aux Jeux Olympiques. On s'en fout pas. Oh, je vais vers toi tout de suite, Sarah Pitkowski.
Je vais prendre un café.
Oui, vas-y, je t'en prie. Tu m'en prends un sans sucre. Julien Beletto.
Je m'en fous pas.
Simon Dutin.
Je vais laisser aux spécialistes à ma gauche.
Fred Weiss.
Je m'en fous pas.
Ah, évidemment. Ah. Le tirage au sort des tournois olympiques de basket masculin et féminin, vont avoir lieu mardi. Et la France, malgré son statut de pays hôte, ne va pas figurer dans le chapeau 1. La France sera positionnée dans le chapeau 3, en cause des mauvaises performances des Bleus, notamment au Mondial, où on avait terminé 18e. Eh bien, désormais, nous sommes au 9e rang du classement FIBA. Forcément, on va affronter des équipes dans le chapeau 1, chapeau 2. Alors, je vous donne comme ça l'eau à la bouche avec un tirage extrêmement compliqué. Imaginez une poule avec les États-Unis, la France, évidemment, la Serbie, qui est dans le chapeau 2, et puis après, dans le chapeau 4, je vous mets la Grèce ou la Slovénie de Doncic. C'est une bonne nouvelle ou pas du tout?
Alors, c'est pas une mauvaise nouvelle. Pas une mauvaise nouvelle, parce qu'effectivement, il y a ce cas de figure où, mais alors vraiment, les planètes sont pas alignées. Hein, mais je préférais que ce soit le PSG qui tire les boules pour nous, parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Mais effectivement, si tu tombes USA, Serbie, Slovénie ou Grèce, t'es pas bien. T'es dans le groupe de la mort et c'est très compliqué. Sauf que il y a d'autres équipes et moi tomber contre Team USA au début, je trouve que c'est une très bonne nouvelle.
Pourquoi aux auditeurs?
C'est simple, parce que tu vas recroiser beaucoup plus tard. En fait, t'es pas sûr de les recroiser, c'est vrai. Mais si tu fais une bonne compétition, t'as une possibilité de les croiser plus tard. C'est ce qui s'est passé. On a gagné 2 médailles olympiques en basket en 2000 et en 2021, on va dire. Et les deux fois, on était dans le groupe de Team USA. Donc c'est plutôt de pouvoir aller plus loin.
Notamment la dernière fois où on les avait tapés en face de boule.
Exactement. Donc moi, réellement, elle me fait pas peur. Ce tirage me fait pas peur, parce qu'il y a vraiment des équipes qui sont à notre portée. Il y a des ogres, évidemment.
Genre dans le chapeau 1, hormis Team USA, faut éviter qui?
Non, mais de toute façon, il n'y a aucune chance qu'on joue au Team USA au premier tour. Il n'y a aucune chance qu'on joue Team USA au premier tour. Il y a une subtilité dans le tirage au sort qui fait qu'on ne peut pas être dans le même groupe que Team USA au premier tour.
Parce qu'on est le pays hôte.
Il y a un truc comme ça.
Ouais, j'imagine. Par contre, ça complique la tâche. Parce que si tu tombes contre Espagne ou Allemagne, c'est des équipes que tu vas gagner, tu vas battre évidemment, et tu vas affronter rapidement Team USA du coup.
Ok, il est pas très inquiet, vous l'avez entendu, c'est Fred Weiss. Merci, toutes les informations à retrouver sur rmcsport.fr, et merci Julien Beneteau pour ce complément d'information. Vous l'entendez derrière moi, les clochettes, ça se passe en Autriche avec le slalom.
Il y a du monde, hein.
Bah oui, c'est incroyable. Évidemment.
C'est les cloches des vaches, hein. C'est les Suisses, hein, qui ont leurs cloches et qui nous mettent l'ambiance comme ça. Pour l'instant, les deux Français qui donc se sont élancés, les deux Français qui est en tout cas dans les 30 premiers, dans les 25 pardon premiers, Dossard, Clément Noël qui se classe 4e pour l'instant. A priori ça ne devrait pas bouger, à 8 dixièmes de Timon Hogan, donc il jouera le podium et peut-être même la gagne tout à l'heure en deuxième manche à partir de 13h30. Ça s'est moins bien passé en revanche pour Steven Amier, did not finish, il a enfourché Steven Amier à mi-course et donc on ne le verra pas sur la seconde manche. Mais bon, ça a quand même été l'année de la progression pour le fils du vice-champion olympique de slalom 2002.
Merci beaucoup, à tout à l'heure Arnaud Souk. Il est 10h56. Les grandes gueules du sport reviennent dans quelques instants autour du porte-drapeau. On a eu des modalités, des nouveaux critères qui sont apparus pour devenir porte-drapeau français. Faut-il être une tête d'affiche ? Ce sera notre débat tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.